que les années étudiantes sont vraiment les meilleures?
J'ai beaucoup d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel?
La première fois, c'est vraiment si important.
Comment tu gères, toi, la pression sociale?
C'est vraiment si grave.
Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants.
J'ai toujours pas mon bac.
Est-ce que c'est normal de toujours pas savoir ce que le. Est-ce que jamais été en couple? Est-ce que c'est normal?
Je veux pas avoir d'enfants.
Est-ce que c'est obligatoire d'avoir
la pression?
C'est si grave que ça parfois. C'est vraiment si simple que c'est normal. Et bah viens, on s'assoit et on papote.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur les ondes de CELAB 88.4 FM et vous écoutez On Papote, le bimensuel que vous attendez depuis ce début de semaine, animé par Anaëlle, votre animatrice préférée. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter sur les plateformes et c'est toujours un plaisir d'avoir des retours sur ce projet. N'hésitez pas à noter l'émission si vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute, ça permet de nous soutenir. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et TikTok, @onpapote.podcast. Ce soir, je suis au studio avec les artistes de demain, Amandine Prost, Charlotte et Stéphane du groupe Blue Seas et Meven, avec qui nous allons parler musique, création, production et même vie personnelle, voilà ce qui sera abordé ce soir pour votre plus grand bonheur. Comme vous le savez, nous commençons l'émission avec notre fameux tour de table qui permet à nos invités de se présenter et à vous de mieux les connaître. Pour cet épisode, je vous demanderai donc de donner votre prénom et votre nom de scène s'il y en a un, votre âge et un mot qui caractérise votre relation avec la musique.
Donc salut, je m'appelle Amandine, mon nom d'artiste est Amandine Prost et mon vrai nom et prénom, je ne mens pas. J'ai 21 ans et je fais de la chanson française, voilà.
Bonjour, moi c'est Meven, nom d'artiste Meven, j'ai pas changé. J'ai 22 ans et ma relation à la musique, je veux dire, curieux.
Alors Stéphane, mon nom de scène c'est Guru Sissoum et en fait ma relation à la musique, eh bien, je passe pas un jour sans jouer ou sans composer et ni en week-end, enfin voilà. C'est vital.
Et donc, moi, c'est Charlotte. Mon nom de scène, Chacha, ou Charlotte, ça dépend. Ma relation à la musique, je dirais... oui, vital aussi, comme Stéphane, mais peut-être moins quotidienne.
Donc, pour passer sur la première partie, qui est la musique au cœur du quotidien, je vais vous poser la première question, qui est: quel est votre parcours et pourquoi avoir choisi la musique?
Mon parcours, il date de très longtemps, c'est-à-dire que j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé ça, depuis que je suis toute petite. J'ai fait de la clarinette entre-temps, et puis j'ai arrêté, j'ai repris la chanson à l'âge de mes 14 ans à peu près. J'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube, et puis j'ai été repérée à ce moment-là par une émission qui s'appelle The Voice Kids. Et donc je suis passée dans cette émission, ça a été une grande, grande découverte. Jusque-là, je n'écoutais que des ballades en anglais et j'ai découvert là-bas la chanson française, notamment sur la finale de The Voice où on m'a incité à chanter La Foule, voilà, d'Edith Piaf. Et ensuite, je me suis mise à écrire mes propres chansons pendant 3 ans et j'ai décidé d'arrêter, là, il y a 2 ans, toute ma vie pour faire de ma vie la musique.
Bah, personnellement, j'ai un parcours un peu différent parce que j'ai toujours adoré aussi la musique, mais pas... sous forme de passion quand j'étais petit. Par contre, j'ai toujours adoré l'écriture. J'écris depuis vraiment tout petit. Enfin, je crois que c'est vraiment le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est de tout le temps écrire. Je suis tombé amoureux grâce à des professeurs de français, de l'écriture, donc aussi de la poésie. Et je me suis retrouvé en fait à vouloir faire autre chose que, enfin, de cette poésie-là que je pouvais écrire. Et du coup, je me suis naturellement tourné vers le rap parce que... c'était plus facile, j'avais pas forcément la voix pour chanter, donc c'était plus facile à mettre en œuvre en fait.
D'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours écouté beaucoup de musique. Et après, j'étais fasciné, mes parents dansaient beaucoup, donc m'amenaient parfois au bal. Et j'étais toujours fasciné par les touches blanches et noires des claviers. Et c'est comme ça que la famille, à l'âge de mes 11 ans, s'est mobilisée pour m'offrir un orgue électrique à 2 claviers et pédaliers. C'est comme ça que je suis venu à la musique, à la pratiquer. Très vite, j'ai composé mes propres morceaux. Alors au début, je suis passé par différents stades. Au collège, c'était plutôt le reggae. Le rock'n'roll d'abord, le reggae ensuite. Après, je suis passé à la new wave, la cold wave, l'industriel et autres. Et j'essaye d'écouter de tout. Voilà, j'apprécie à peu près toutes les musiques, sauf certaines particulières qui sont rares.
Et donc, moi, je pense que la musique, ça a été dans le ventre de ma mère, la première fois, puisqu'elle était amateur, mais chanteuse lyrique. Et elle me disait d'ailleurs qu'elle sentait à chaque fois qu'elle chantait, que je tapais dans son ventre. Et mon père aussi était pianiste, enfin est pianiste. Donc il jouait du jazz à l'époque avec ses amis. Et donc moi j'ai fait du piano, c'est mes parents qui m'avaient incité à faire du piano, donc du piano classique, et j'ai adoré le piano classique vraiment. J'ai dû arrêter quand j'ai fait mes études parce qu'un piano ça se transporte pas facilement. Et en parallèle j'ai toujours chanté, donc chanteuse de douche professionnelle. et puis il y a eu un moment où, où j'ai eu envie de chanter devant des gens. Et je me souviens de la toute première fois où j'ai chanté devant des gens, je tremblais de tous mes membres. Et en même temps, c'était une sensation fantastique. J'ai pris aussi un ordinateur, je me suis mis à bidouiller un peu, à écrire mes propres chansons. Et puis quand j'ai rencontré Stéphane, enfin Guru Sissoum pour le nom d'artiste, et qu'il m'a fait écouter ses prods, ça m'a énormément inspirée. Et donc là, je me suis mis à écrire des chansons sur ces prods.
On va passer à la question suivante qui est quel est le temps d'écriture pour un morceau ? Et du coup, pour illustrer un peu cette question, on va prendre l'exemple du morceau Be The One de vous, Blue Seas. On écoute ça. C'était Be The One du groupe Blue Seas. Donc la question était combien de temps prend l'écriture d'un morceau ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez pris de temps pour écrire ce morceau-là ?
Oui, alors moi, ce morceau, je ne m'en rappelle plus trop. Il est venu assez vite. Je crois que c'était à l'origine, c'était à la basse. Alors ça dépend. Je compose de trois façons différentes. Parfois, c'est une petite mélodie que j'ai dans la tête. Alors souvent je l'enregistre vite fait sur mon téléphone, j'en ai perdu plein comme ça parce que le lendemain en réécoutant, je ne comprends plus ce que j'ai voulu faire. Donc j'en perds beaucoup. Parfois c'est au piano, je pianote un peu, je trouve des thèmes et autres et je vais partir de là. Ou alors c'est carrément, je me mets au synthé, souvent je parle d'un preset qui m'inspire et à partir de là ça déroule. Et là je pense que c'était un preset à partir du son de la basse. Après, tout vient assez vite, finalement. Et donc, ça, j'en produis pas mal. Je les passe à Charlotte et elle va choisir ce qui l'inspire.
Oui, donc, généralement, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis qu'on s'est rencontrés. Quand j'ai rencontré Stéphane, Guru Sissoum, il avait déjà combien de morceaux ?
Beaucoup.
Beaucoup.
Oui, beaucoup.
Donc, il m'a confié toutes ses instrus. Et puis il y en a qui j'ai trouvé fantastiques et il y en a, je les ai toutes trouvées fantastiques en fait, mais certaines m'ont inspiré tout de suite une mélodie. Mmh. Et donc Be The One, alors ça fait pas partie des mélodies qui sont venues en un bloc et tout de suite. Mmh. Ça fait partie des chansons où j'ai été obligée entre guillemets de retravailler. Donc j'ai eu le thème et puis ensuite généralement le thème de la musique et le thème de la chanson viennent en même temps. C'est assez troublant pour moi parce que ça parle toujours de quelque chose qui me tient à cœur. Et pourtant, ce n'est pas du tout une démarche consciente. Je ne vais pas chercher le thème en me disant « Ah, je vais parler de telle ou telle chose. »
Oui, ça vient naturellement.
C'est plutôt mon inconscient qui me sert quelque chose. Je me dis « Ah, d'accord, c'est important pour moi en ce moment de parler de ça. »
Moi, j'ai juste une petite question pour vous, tant qu'à faire. Du coup, est-ce que ça vous arrive aussi de vous retrouver tous les deux et d'écrire vraiment ensemble, où il y a vraiment une phase où toi, tu es séparé, Stéphane ?
En premier, je lui confie la chanson.
Ouais.
Charlotte trouve tout de suite une ligne vocale. En général, parfois même, c'est impressionnant hein, parce que je me rappelle notamment une chanson micro-preset que moi, j'adore vraiment. C'est peut-être ma préférée de ce qu'on a pu faire. Et c'était, je me rappelle, j'avais fait ça un soir, et le matin, je le fais écouter à mes filles. Elles me disent, ah, c'est bien ça, papa, tu devrais faire écouter ça à Charlotte. Et donc, deux jours après, on se retrouve au Jardin Moderne tous les deux. Et puis, je dis ça à Charlotte. Je lui dis, ouais, les filles voudraient que je te fasse écouter. Ben, vas-y, fais écouter. Et donc, comme on l'avait déjà vécu et qu'on avait enregistré ça sur un téléphone, je mets son micro directement sur ma carte son, j'ouvre une piste sur Ableton et j'enregistre sa première prise. Et en fait, sa première prise, donc elle découvre la musique, elle l'écoute et elle va chanter ça. Ce qui figure aujourd'hui, enfin, ce qui va figurer sur l'album et ce qu'on chante en concert, c'est la version initiale.
Donc vous étiez ensemble voilà. Au moment, au final voilà. De la création.
Ouais.
Parce que justement, moi, par rapport à ça, au niveau de l'écriture, là où je voulais en venir aussi, c'est que j'écris pas toute seule, en fait. J'écris avec deux personnes, qui sont aussi des artistes, qui s'appellent Olivier Touhaut et Jean-François Dufour. Et en fait, nous, notre processus de création, c'est qu'on va s'enfermer dans un studio pendant quelques jours. Et en fait, on discute énormément. Mmh. Et de ces discussions, ensuite, naissent des chansons. Alors, on ne sait jamais trop comment ça arrive, mais ça arrive. C'est un peu magique. C'est un peu la symbiose de toutes ces discussions. Et donc, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, en fait, pour moi, d'écrire une chanson. En plus, au moment où j'ai écrit les chansons, là, j'étais encore à l'école, en études supérieures. Donc, on se voyait que sur mes périodes de vacances. Donc en fait, l'album a été écrit sur 3 années. Il y a des chansons qui ont été écrites sur 3 années et qui ont du coup énormément pris le temps de mûrir. Pour moi, les mots, c'est hyper important et je pense comme toi, Méven. Ouais.
Moi, dans le processus de création, en fait, c'est plus à la recherche de l'instrumental où je vais mettre énormément de temps, parce que je marche beaucoup plus au feeling, en fait, à l'instinct. Au truc où si ça part directement, si c'est parti en termes d'écriture. Enfin, l'écriture, en fait, c'est ça qui est un peu amusant, mais si j'ai le bon feeling, je peux écrire en 10 minutes.
Oui, c'est ça.
Et ça découle tout seul, et c'est fait, en fait, assez naturel. Et après, pour la production, je sais que sur le mixage, on va dire, sur les premières musiques que j'ai pu faire, je mettais, on va dire, 12 heures. Là, maintenant, ça peut me prendre une après-midi entière pour être sûr d'essayer de perfectionner la musique dans sa globalité.
À quoi ressemble une journée typique de quelqu'un qui fait de la musique ?
Alors là, tu nous poses une colle. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de journée typique. Elles sont toutes aussi différentes les unes que les autres. Ça dépend déjà si tu es artiste dans un label, déjà où tu peux du coup plus te focaliser sur la partie artistique et moins avoir tout le reste à gérer, ta communication, trouver tes concerts et tout. Et moi, par exemple, je suis artiste et je suis artiste auto-entrepreneuse, donc je fais vraiment beaucoup, beaucoup de choses moi-même. Donc j'ai énormément de journées où en fait je vais les passer devant mon ordinateur, à démarcher, voilà. Donc c'est pas forcément des choses artistiques, ça fait moins rêver tout de suite, tu vois. mais ça fait partie du job aussi, et on l'apprend, on s'y attend pas forcément. Mais on l'apprend. Mais là, je suis un peu en train de me rendre compte justement que je laisse trop aller mon corps et le côté artistique, alors que mon corps, c'est mon outil de travail et il est temps qu'il y ait encore plus de concerts, que l'album sorte, que tout, quoi.
Moi, c'est... En fait, je suis encore étudiant à côté, donc ça va être une journée typique d'étudiant. C'est juste que mon temps libre, je le passe à faire de la musique. Et je peux me coucher très tard, des fois, pour pouvoir écrire. Souvent, j'écris le soir, donc ça peut m'arriver peut-être de me coucher... des fois jusqu'à 4h du matin alors que j'ai cours le lendemain. C'est vrai que c'est pas très sérieux, mais bon, c'est ma manière de faire et je trouve que ça, tant que ça marche, ça marche.
Moi, c'est comme toi. C'est-à-dire que j'ai un boulot à côté et en fait, c'est tout mon temps, enfin, une grande, grande partie de mon temps libre que je consacre à la musique.
Et quant à moi, je suis un peu dans la même découverte qu'Amandine, c'est-à-dire que je me rends compte que le chant, ça passe beaucoup par le corps. Enfin, ça passe, en fait, c'est que le corps. Et que donc, il faut vraiment faire extrêmement attention à son intérieur, en fait, pour pouvoir continuer à profiter du chant, en fait, et de pouvoir l'exprimer. Et voilà.
On dit souvent que la musique est un échappatoire vers un monde idéal pour ceux qui l'écoutent, mais est-ce que c'est la même chose pour ceux qui l'écrivent ?
C'est toujours moi qui commence. Vous voulez pas qu'on passe la parole à quelqu'un ? J'ai une pression sur les épaules, vous imaginez même pas.
Énorme.
Voilà. Si je peux commencer, pour moi, c'est une manière de m'exprimer la musique. Donc techniquement, je m'ouvre plus à la réalité, en fait. je me confronte plus à la réalité que ce que je le fais en fait dans la vie de tous les jours. Je sais que je suis quelqu'un d'assez un peu dans la lune, tout ça, un peu rêveur. C'est vrai que quand j'écris, j'essaie d'écrire sur des choses plus sérieuses que je ressens vraiment ou que j'ai besoin d'exprimer. Bah, peut-être que ça fait rêver ce que j'écris, mais en tout cas, moi je sais que c'est plus un retour à la réalité. Je vois plus de cette manière.
Ouais. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, vraiment, 200%, je sais même pas quoi rajouter en fait.
Tout le monde est d'accord avec mes veines, du coup.
Ouais.
Apparemment.
Plutôt, ouais.
Ouais, il y a cette espèce de... il y a quelque chose de brut, en fait. De vrai, en fait.
Ouais, totalement.
De toute façon, on n'a pas le choix. L'objectif, c'est aussi d'être sincère à 200%. Mais par contre, des fois, tu peux aussi te faire violence un peu en écrivant. C'est pas toujours facile. Tu vas chercher des choses en toi qui ont certes un objectif d'être quand même le plus universel possible. Mais oui, des fois, tu vas quand même chercher des choses assez difficiles pour les rendre accessibles et agréables à l'oreille.
Il y a des moments où tu vas tirer une émotion qui te fait déjà super mal de l'exprimer, mais c'est ça qui rend la musique plus belle.
Bien sûr.
On va passer du coup à la seconde partie, mais avant ça, donc la seconde partie qui est basée principalement sur votre vie personnelle, votre vie artistique. Mais avant ça, on va faire une transition et je souhaitais parler du coup des personnes qui vous soutiennent tous les jours, donc des fans que vous pouvez avoir. Et pour cela, on va écouter le morceau Fan, donc de Meven, issu de ton album éponyme, on va dire ça comme ça. On écoute le morceau et on se retrouve après.
Et toi, tu me soutiens comme si j'étais le premier artiste que tu entends. Tu comprends pas que la célébrité est souvent la pire des sentences. Me donner du crédit auprès de tes amis, pour toi c'est tentant. Mais t'es la première à m'écouter, d'ailleurs t'es la seule à m'écouter. Si j'écris Céline, c'est que j'ai des peines à cicatriser. La musique c'est tout ce que j'ai, avec des démons à exorciser. Et je vois dans ton regard tout l'amour que tu me portes. Mais je veux abandonner, tu veux me refaire le portrait, promis. Je ferai de la scène, mais tu seras sur la scène, ouais. Tu seras sur la scène, oh.
Donc, fan de Meven, dans le morceau, tu dis que tu feras de la scène et qu'elle fera de la scène. Enfin, tu feras de la scène. Pourquoi est-ce que tu vois la personne comme un artiste, elle aussi? Vous êtes une sorte de groupe ou...
pas vraiment. Là, dans cette musique-là, précisément, je me mets dans la position où je parle à celle que j'appelle ma fan numéro 1, qui est ma copine, qui me soutient énormément, en fait. Et du coup, dans ce passage-là, ce que je dis, c'est que moi, j'ai toujours pas fait de scène, de concert ou quoi que ce soit, et qu'elle me pousse un peu à essayer d'en faire. Mais c'est vrai que c'est une étape, moi, qui me fait un peu peur. Donc, c'est vrai qu'elle me pousse à le faire, et je me dis que le jour où je ferai de la scène, je voudrais qu'elle soit là, en fait.
Ouais, qu'elle soit sur scène, vraiment.
Sur scène, ou même dans les backstage, qu'elle soit pas dans la place de juste la spectatrice.
Ouais.
Que lui montrer qu'il y a une importance quand même dans ce qu'elle fait.
Donc là, la question transition, comme je l'ai dit, on dit souvent que dans le milieu artistique, les premiers fans sont souvent la famille et les partenaires, donc comme tu l'as dit, qui a été votre tout premier fan, réellement?
Très bonne question, vous savez vous?
Bah
vas-y alors,
c'est ma belle-sœur, la sœur de ma femme, qui a tout écouté de ce que j'ai pu produire depuis très très longtemps. Ouais, je pense que c'est vraiment elle. Après, c'est un collègue aussi, depuis 20 ans à peu près, il écoute tout ce que je fais. Il est là tous les concerts, il sera au prochain, enfin bref.
C'est une excellente question. Peut-être bien mon frère.
Je pense que c'est ma famille proche, mes parents qui ont vraiment toujours apprécié et cru en moi, même si je disais pas du tout vouloir en faire mon métier à la base. Mais ils ont toujours été réceptifs à cette sensibilité-là qui s'émanait quand je chantais, quoi.
Ça va être pareil, ça va être famille proche, donc surtout mes parents et mon frère. Bah, je leur ai dit un peu tard que je faisais de la musique, mais quand ils l'ont su, ça a été les premières personnes qui m'ont donné vraiment cette impression qu'ils aimaient vraiment ce que je faisais.
Du coup, on va passer à la seconde partie qui, comme je l'ai dit, va parler de la vie artistique et de la vie personnelle. Est-ce que vous avez peur de l'échec? Et pour cette question, on va s'écouter du coup un morceau donc, de toi, Amandine. Si je tentais le pire, on s'écoute ça et on revient après.
Si je tentais le pire, de ne jamais
je tentais le pire d'Amandine, Amandine Prost, pardon. Mmh. Alors, Amandine, dis-nous, est-ce que toi, tu as peur de l'échec ?
Je pense qu'on a malheureusement ou heureusement tous peur d'échouer. La peur de l'échec donne aussi envie d'essayer des choses et, comme je dis dans cette chanson, de tenter le pire. Et c'est généralement quand on se retrouve face à un mur grandissant où on se trouve littéralement au pied de l'échec qu'on se dit « Ok, non, c'est plus possible. Il faut que je prenne les choses en main et on va essayer autre chose. » Mais peut-être que ce sera bénéfique ou pas, on n'en sait rien, en tout cas on tente. Mais échouer, oui, enfin, moi par exemple, quand j'ai tout quitté pour faire de la musique, bien sûr je me suis dit « Oh là, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Ça se trouve c'est une grosse bêtise et en fait je regrette pas du tout. Ouais. Mais j'aurais pu échouer en ne m'écoutant pas pour le coup. »
En vrai je suis pas trop d'accord. J'ai un copain, quand j'ai sorti du coup, par exemple son fan, en fait ça vient d'un projet... qui s'appelle Meven, et qui en fait était un projet un peu particulier parce que c'était un projet dans une période où moi à la base je voulais arrêter la musique. Okay. Parce que je me disais que j'arrivais à rien, que voilà, j'étais allé au bout et qu'il fallait arrêter et que je réussirais jamais. Moi j'ai un très bon copain qui m'a dit tu sais, pour avoir peur de l'échec, faut déjà avoir réussi.
Ouais.
Et je trouve que cette phrase très vraie parce qu'en fait j'ai pas réussi, donc j'ai rien à perdre en fait. Parce que je suis toujours pas allé au stade où j'ai quelque chose à perdre, donc autant tenter.
Moi, j'ai pas peur de l'échec parce que mes échecs ont fait mon bonheur, donc voilà, enfin pour différentes raisons. Samedi dernier, on a fait un concert aux 40 ans d'une amie, et vraiment, on a passé un super moment, enfin voilà, c'était hyper agréable, d'abord nous, de jouer ensemble, puis avec le retour de tous les gens qui étaient là invités, vraiment, il peut pas y avoir d'échec. Le fait de se mettre à une composition, de la mixer, de la masteriser, de se la réécouter, trouver que finalement ça se tient, c'est pas mal, il y a pas d'échec non plus, voilà.
Et l'échec, alors c'est un mot un peu, c'est vrai que c'est un mot un peu étrange, dur. Ouais, un peu dur. Moi, ce serait pas la peur de l'échec, en fait. C'est, disons que ça dépend comment on vit la musique, si on la vit pour soi ou si on la vit par rapport aux autres et à la réception qu'ils en ont. Et c'est vrai que si on regarde, moi j'ai découvert là ces derniers temps l'industrie musicale et je trouve ça redoutable en fait. Ça fait extrêmement peur, ça fait mal, c'est une grande violence. Donc par rapport à ça, c'est pas une peur de l'échec, c'est cette confrontation en fait qui est violente.
Je peux faire un peu écho à ce que vous dites parce que moi c'est pas dans la musique mais c'est dans la réalisation on va dire de contenu audiovisuel, oui. On va dire radiophonique, dans le sens où on sait pas en fait ce que le public peut vouloir attendre de ce que nous on crée, et c'est vrai que en fait tous les retours qu'on peut avoir vont toujours être une source peut-être d'angoisse ou de peur. Certes j'ai eu que des retours positifs. que des retours positifs depuis le début, dont un seul qui a été vraiment négatif. Mais après, au contraire, c'est une bonne chose d'avoir des retours négatifs de temps en temps, tant qu'ils sont constructifs.
Ouais.
Je pense que la peur de l'échec, elle vient surtout peut-être du fait qu'on a des idoles et qu'on essaye d'atteindre un peu ce cap où on peut dire qu'eux, ils ont réussi. Et nous qui débutons, on a peut-être peur de ne pas arriver à leur stade et à leur niveau de célébrité. Donc ça me permet de faire un peu un parallèle à ce que tu avais dit, Meven, dans la musique qu'on a écoutée, dans Fan. Tu as dit la célébrité est souvent la pire des sentences. Est-ce que c'est... comment est-ce que tu le vis à peu près ? Comment s'expliquer ?
Après, moi, la célébrité, c'est pas quelque chose que je vis actuellement. Ça va. Mais non, c'est parce que je suis très passionné par la musique et même en fait par tout ce qui touche à l'audiovisuel et qui peut être artistique, donc même par rapport au cinéma. Et j'aime beaucoup regarder des interviews, des documentaires sur des artistes. Je trouve ça toujours super intéressant. Et il y a toujours une notion, très souvent en tout cas, une notion qui revient, c'est qu'il y a un avant-après la célébrité.
Ouais.
Et que la plupart auraient été très heureux s'ils pouvaient vivre de la musique sans être célèbres. Et que ça leur a apporté un lot de problématiques plus que d'avantages en fait. La célébrité, ça peut avoir ce côté à double tranchant et des fois l'autre côté du tranchant justement est plus aiguisé.
Je crois que tu as hoché la tête, Amandine.
Oui, ouais. je hoche la tête parce que moi, y a forcément avec mon expérience The Voice, j'ai une partie où j'ai été assez médiatisée et donc je vois totalement cette partie célébrité qui peut être vraiment désagréable. Et typiquement, pour le coup, moi je sais que si je fais de la musique, c'est vraiment pas cette recherche là parce que c'est pas drôle tous les jours de se dire que tu sors et que en fait on te reconnaît partout, tu peux pas faire tes courses tranquille, tu peux pas acheter tes petites culottes tranquille, tu vois. Voilà, c'est à double tranchant, mais par passion en fait tu continues quand même.
Et moi, récemment, j'ai été assez touchée par ce qui se passe pour Stromae. Moi, c'est un artiste que je vénère totalement. Je le trouve que c'est un artiste complet. Lui, vraiment, sa célébrité, elle est explosive parce que tout le monde l'adore, en fait. Et c'est vrai que ce qu'il vit, ce qu'il a l'air de vivre, qui fait qu'au final, il ne peut pas partager son art, je trouve que c'est vraiment... ça me touche, en tout cas.
Ouais.
Mmh. Okay. Après, il y a aussi... moi, je veux juste rajouter, il y a quand même aussi un peu cette espèce de contrat un peu qu'on se fait un peu avec nous-mêmes quand on se lance dans la musique, surtout quand on partage, c'est que y a des moyens de pas se faire reconnaître, par exemple de rester masqué. Moi je vois que chez les rappeurs il y en a beaucoup de plus en plus qui le font. Du coup si tu décides de pas l'être masqué, tu te dis bon c'est le jeu, tu vois, si je suis reconnu, que je réussis, bah c'est le jeu.
Donc on a parlé célébrité, mais selon vous, à quel moment est-ce qu'on pensait que vous pourriez dire « c'est bon, j'ai atteint l'objectif que je voulais » ou même « c'est bon, je suis célèbre » ?
Disque de diamant. Hein.
Pour moi, ce n'est pas une question de célébrité. Ce serait vraiment ne plus avoir à travailler pour jouer. Au sens jouer sur scène, partager.
Ouais, en faire ton métier.
Voilà, que ce soit aisé à ce niveau-là, qu'on puisse jouer quand on a envie, qu'on puisse composer quand on a envie. Voilà, ça, ce serait pour moi le confort. Okay. La célébrité, je m'en fiche un peu, en fait.
Bah, en fait, moi, c'est à chaque étape, quoi. Nous sommes allés tous les quatre avec notre ingé son une semaine entière en résidence à Guyancourt. Bon, bah, là, c'était une étape vraiment sympa, quoi. Donc, voilà, on a fait une résidence, un concert de sortie où ça s'est bien passé. Donc on monte quelques, à chaque fois qu'on monte quelques marches de l'escalier. Ouais. Et là la prochaine fois c'est le disque, rien que le fait de tenir un LP avec une pochette qu'on aura conçue entre ses mains, voilà, c'est la prochaine étape, quoi.
Mais Van, le disque de diamant.
Parle-nous-en.
Non, en vrai je suis d'accord un peu avec tout le monde. La réussite dans la musique, ça se lie pas du tout à quel point tu es célèbre. C'est vraiment plus, je rebondis sur ce que Charlotte a pu dire, mais c'est si tu es suffisamment à l'aise financièrement par rapport au travail que tu fournis musicalement, bah, tu as déjà réussi. Hein.
Pouvoir écrire sereinement, en vivre sereinement, et peut-être, pourquoi pas, avoir une forme de reconnaissance par certaines personnes pour certaines œuvres aussi. Effectivement, ça fait partie du métier, mais ça sert à rien d'avoir des millions de personnes derrière soi. L'objectif, c'est de partager avec des gens qui le sentent et qui sont avec toi, quoi.
Jusqu'à quand vous voyez faire de la musique, est-ce qu'il y a quelque chose qui, vous pensez, vous arrêtera un jour dans ce processus d'écriture et de production?
Non.
Non. Clairement. À moins que le corps lâche vraiment, parce que notre outil de travail, c'est notre corps. Moi, à moins que mon corps lâche, je pense que...
Ouais, bah, moi, tu vois, je me dis que si mon corps lâche, bah, je peux encore écrire pour les autres.
Ouais, c'est ça.
Donc, j'arrêterai pas. Après, si on parle de carrière, je pense qu'il y a toujours un moment où il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir plus sortir d'album et peut-être rester sur ce que t'as déjà fait. Si t'as encore envie de faire des concerts, parce que du coup, j'en ai pas fait, mais je pense bien que c'est quand même une émotion particulière à partager avec le public. Tu peux continuer à faire des concerts ou écrire pour les autres, produire pour les autres aussi. Mais à un moment, je pense que... faut savoir dire, bon, là, je mets tout à plat, j'ai fait ce que j'avais à faire, en fait.
Alors, plus que le corps, là, je dirais plutôt le cerveau qui m'arrêterait, je pense. C'est soit la démence, soit Alzheimer, soit le cancer du cerveau, voilà. Sinon, tant que ça marche là-haut, je pense que je continuerai à faire de la musique.
Aucune idée. Je ne me suis jamais posé la question. C'est au jour le jour. Je pense que j'ai toujours chanté et que je continuerai à chanter. Et puis, comme les mélodies, elles viennent, bah, à composer aussi, j'imagine. Voilà.
Ah, ouais. Oh, super ça. Depuis que vous faites de la musique, quelle a été la chose qui vous a rendu le plus fière, Evan?
Moi, qu'il y a un journaliste très connu, spécialiste du rap, qui s'appelle Mehdi Maizi, qui m'a riposté dans sa story à deux reprises.
Je sais pas quoi dire, mais
c'est le truc où je me dis, bah, en plus, moi, c'est une personnalité que j'adore.
Ouais.
Donc j'avoue que je ne m'y attendais pas trop. C'était fou.
Amandine ?
Je pense que c'est la première fois où j'ai eu la sensation de réussir à écrire une chanson, à écrire quelque chose, que ça venait de moi, que c'était... sincère. J'étais très fière de moi, alors que c'était complètement pas instinctif, mais voilà.
Non, je sais pas.
C'est dur.
Alors, fier, je sais pas si je mélange pas les sentiments, du coup. En tout cas, content et oui, fier quand mes filles font un bon retour sur ce qu'on fait, par exemple. Voilà. Ouais. Ouais, elle est chouette, cette chanson. Bon, si c'est mes filles qui le disent, c'est bien.
C'est que c'est vrai.
C'est que c'est vrai.
Ah oui, c'est des critiques ouais. féroces. Et pour ma part, c'est quand j'envoie quelque chose à Stéphane et que j'ai toujours un peu tremblante parce que des fois, je me dis, moi, je trouve ça bien, mais ça se trouve, c'est complètement pourri.
Ouais.
Et quand il me dit « Waouh !» alors ça, là, je suis hyper fière.
Ouais, parce que du coup, j'ai réfléchi. Et en fait, j'ai un autre truc qui me rend très, très fière.
Ouais.
Ça va être bizarre, mais ça va être avoir fait pleurer des gens.
Ah.
Par exemple, mes parents, je les ai fait pleurer sur une musique qui s'appelle « Same Mistake
ouais. ».
C'est vrai que c'est un peu particulier, mais en fait, ça m'a rendu super heureux. Parce que j'ai réussi à toucher des,
intérieurement.
Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a rendu fier.
Je comprends totalement et je pourrais dire la même chose aussi. Ouais, vraiment, c'est bizarre. Non, mais en fait, c'est marrant ouais. parce que tu sens que t'atteins quelque part les gens, leur intimité. Ouais, et ouais. C'est super beau, quoi, d'en arriver à ce niveau de partage-là.
Comme je l'ai fait pour l'autre question, je rebondis un peu dessus, mais comme, encore une fois, c'est pas dans la musique. Moi, je pense que le moment où j'étais vraiment le plus fière de ce que j'ai pu faire, c'est le moment où j'ai sorti le premier épisode du coup de ce podcast. Donc vraiment, pas l'épisode 0 qui est présent sur les plateformes, mais l'épisode 1, vraiment, où j'ai vraiment pu enregistrer à 100% tout l'épisode, vraiment ici, dans un studio, avec vraiment du matériel. Principalement, le moment où il est passé à la radio. Le moment où tu te dis, là, il y a des gens dans leur voiture, ils ont allumé leur radio, et bon, ils ont peut-être zappé, mais ils ont entendu ta voix et ils entendent ce que tu fais. Et je pense que ça a été un moment où vraiment j'ai... Enfin, dans mon cerveau, ça a fait « Waouh !» Genre, en fait, ça, c'est vraiment ce que t'aimes faire. Et en fait, là, faut se lancer. Et comme vous l'avez dit depuis le début, genre, c'est faire les choses et voir jusqu'où ça nous mène.
Et puis, pareil, le fait d'avoir été, tu te rappelles, diffusé sur votre antenne, Syllab, ouais. parce que moi, j'ai écouté RCR, Radio Campus Rennes, depuis que je suis étudiant, que j'ai été étudiant à Rennes, donc en... fin des années 80, donc je suis un auditeur, et lorsque c'est passé il y a quelques années, notre premier titre dessin animé sur votre antenne, alors là, ouais, la fierté, il reste plus que Canal B qui est l'autre radio que j'écoute en boucle, voilà.
Du coup, les artistes ont souvent besoin de se confier dans leurs morceaux, et du coup ça les rapproche de leurs fans, de ceux qui les écoutent, mais est-ce qu'il y a quand même une certaine limite, une ligne jaune à ne pas franchir sur ces démons à exorciser, et même sur ces infos personnelles qu'on donne?
Ouais, de mon côté, j'essaie de faire en sorte que mes chansons soient pas mon journal intime. Ouais. Je pars de sensations vécues, forcément. Et naturellement, ce qu'il va y avoir à la base sur le papier, ça va être ça. Ou alors des choses que j'ai vues chez les autres. Mais l'idée, c'est vraiment de le rendre le plus universel possible derrière pour qu'on n'en sache pas trop sur moi non plus. Et la chanson, elle est pas pour moi, elle est vraiment pour... Pour les autres, quoi. Ouais. Après, ce que je dis aussi, c'est que si j'ai quelque chose dans ma vie qui est assez intéressant et assez universel pour intéresser tout le monde et parler à tout le monde, oui, là, je le mettrai. Mais je vais pas rentrer dans trop de détails. Je pense qu'il y a une vraie limite à mettre, ouais. Mais c'est mon point de vue pour la chanson. Ça, je pense que, par exemple, Maven, toi, t'as un autre point de vue.
C'est juste que sur les... On va dire, sur tout ce que je vais appeler des données personnelles, donc ton âge, ton nom de famille, par exemple, des trucs comme ça. Ça, c'est vrai que c'est des choses que, pour moi, c'est une limite nette, ouais. En mode de, je ne rentrerai pas là-dedans. Par exemple, émotionnellement, la musique permet, en tout cas, et l'écriture qui va avec, permet d'être 100% ouvert et des fois d'aller chercher des émotions qui sont très, très personnelles. Mais parce que tu te dis que peut-être il y a une personne qui va ressentir exactement ça et qui va se sentir bien parce qu'il se dit « Ah bah je suis pas tout seul quoi ». Je sais que j'ai un projet qui s'appelle Nightmare Boy où je parle de 2 ans de ma vie. Et ça allait pas du tout dans ma tête, physiquement, enfin il y avait plein de trucs. Ça a posé beaucoup de questions à mes parents parce qu'ils ont pas du tout vu ça, par exemple.
Ouais.
Du coup je me suis dit peut-être qu'il fallait pas que j'en parle. Mais en fait, pour moi, c'est un projet que je trouve personnel.
J'ai une certaine distance, en fait, avec ce que j'écris, qui n'est pas toujours, comme je disais au début de l'émission, c'est pas toujours très conscient. Donc je suis parfois surprise de ce que j'écris et de ce que je traverse par l'écriture. Et c'est vrai que ça me fait toucher à des parties de moi que je ne révèle pas habituellement et que je révèle du coup par ce biais-là. Et j'aime bien en fait cette sensation. C'est pas toujours confortable dans le sens où je passe en deuxième en fait. Ouais. Le morceau passe en premier et voilà, je passe en deuxième. Et après, évidemment, je ne me mets pas en danger, mais en tout cas, je passe au deuxième plan et je me mets au service de ce qui émane de moi sans même pouvoir parfois juger.
Et du coup, pour conclure, au vu de ce que vous avez déjà réalisé dans votre carrière, est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un, à votre vous du passé, pardon, qui débute encore dans la musique ?
Un conseil, achète-toi un vrai micro. C'est déjà pour commencer parce que
c'est vrai.
J'ai commencé avec un micro-casque nul, enfin bref. Mais non, un vrai conseil, ne rien lâcher. Assume-toi aussi. Assume ce que tu as envie de produire et n'essaye pas de plaire aux autres.
Ouais, je pense aussi que c'est vas-y, fais-toi confiance, assume-toi et écoute-toi aussi intérieurement. Parce que moi, je ne savais pas du tout que je voulais en faire mon métier. Je ne savais même pas que ça pouvait être un métier d'être chanteur. Enfin, je ne l'avais jamais envisagé pour moi. Et donc, j'ai presque envie de dire, ce métier existe, fais-toi confiance et peut-être que ça va éveiller une petite flamme en toi.
Ouais, je vous rejoins tous les deux. Et il faut savoir écouter les autres, avoir des retours, mais en gardant de la distance. Parce que si on se met à écouter tout le monde, comme chacun va avoir des avis différents, on finit par faire quelque chose d'insipide ou d'hyper standard, en fait. Et donc, si on veut vraiment prendre du plaisir dans sa musique et lui donner une vraie identité, il faut d'abord assumer ses choix et ce qu'on aime faire.
Oui, justement, et moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Souvent, les gens... alors là, je parle du côté chanteur ou chanteuse. Souvent, les gens n'aiment pas leur voix ou préféreraient avoir une autre voix. C'est un peu quand on a les cheveux lisses, on aimerait avoir les cheveux bouclés, inversement proportionnés. Bref, donc, ça prend du temps de se dire, j'ai la voix que j'ai. Et si, généralement, les personnes ont des retours... j'aime bien quand tu chantes. C'est beau. Voilà, et ça suffit en fait.
Ouais.
Son propre avis sur la voix qui n'est pas exactement celle de Laurie Neal ou d'une autre artiste ou d'un autre artiste, en fait, ça, on s'en fout. Il faut explorer qui on est à fond en fait,
ouais.
Avec un bon micro.
Ok, d'accord.
Et puis du travail aussi, ouais. Ouais, ouais. Ne jamais lâcher
beaucoup
l'affaire.
Beaucoup de travail.
C'est du travail, ouais.
Énormément de travail.
Une étincelle, ouais. Beaucoup de travail et la patine du temps.
Une vie de travail, je crois.
Ouais, c'est
vraiment.
Mais remplie de récompenses après.
On verra, mais en tout cas, plein de petites récompenses personnelles à chaque fois qu'on savoure.
Les larmes des autres.
Nous avons le mélancolique.
Eh bien, merci d'avoir écouté On Papote. J'espère que l'émission vous a plu. Un grand merci à nos artistes qui étaient présents aujourd'hui, Méven, Amandine, Charlotte et Stéphane, les deux membres du groupe Blue Seas. Si je ne me trompe pas, il y a des projets qui sont sortis ou qui vont sortir. Méven, avec ton EP Les Mêmes Couleurs que les Autres, qui est sorti en mars dernier. Je crois qu'il y a aussi des choses qui se préparent de ton côté.
Oui, je suis en train de travailler sur un nouveau projet. Ça va prendre plus de temps que ce que je pensais, mais ça va être bien, j'espère.
Et toi, Amandine, la sortie de ton tout premier album, Alternative, qui sort à la rentrée scolaire prochaine, dont trois morceaux sont déjà sortis. Je crois qu'il y a une release party qui est prévue.
C'est ça. C'est la première fois qu'on annonce le nom de l'album, donc ça me fait tout bizarre, parce que c'est plus de 4 années de travail. Et donc, l'album va sortir à la rentrée et il y aura une release party à Rennes puisque je suis originaire de Rennes. Je ne peux pas encore dire où, comment, quand, mais ça va venir pile au moment de la sortie. Voilà.
Et vous, Charlotte et Stéphane du groupe Blue Seas, il y a le single No Credit for the Bears qui sort le 16 juin avec le clip. Il y a aussi des dates de concert, si je ne me trompe pas, qui sont prévues.
Oui, le 1er juin, on joue aux Ateliers du Vent. C'est une soirée commune avec The Witches, qui est un groupe d'amis, c'est du tribal soul. Voilà. Et en fait, donc, 4 chanteuses en chœur, avec des percussions corporelles et du tambour indien. Donc elles joueront de 19h30 à 20h30, et nous, on prend la suite à 20h30.
Ça, c'est le 1er juin. Ensuite, on a 2 dates, c'est ça ?
Le 25 juin, alors c'est à 13, au 13 Très Bien Festival, c'est donc à Ifindi. Ensuite, le 8 juillet à Festibressé. Voilà, puis on espère l'album avant la fin de l'année.
Eh bien, ça en fait des dates à retenir. Trouvez toutes ces infos de nos artistes en description avec, évidemment, les liens de leur réseau et de leur musique. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour parler masculinité. Entre pression sociale, stéréotypes et relations avec les autres, voilà ce qui sera au programme du prochain épisode. On se kiffe évidemment en musique avec le morceau éponyme de l'EP de Meven, les mêmes couleurs que les autres. Bonne soirée à tous et à bientôt.
Comment faire pour que tout le monde me regarde? Comment avec autant de taf on peut avoir du retard? Et y'a cette fille, l'amour de ma vie. Des fois je me fais des films au scénar dramatique. Et elle pique ou ça fait mal ou ça fait réagir. Elle s'en fout si le monde est contre son avis. Moi je l'aime car elle me fait entendre raison. Elle me fait voir les mêmes couleurs qu'elle. C'est elle ma maison. Les mêmes couleurs que les autres.